Parole d'auteur. Parole d'auteur, Philippe Gilbert.
Mais que signifie le désir et la pratique des lecteurs de romans de se rendre en pèlerinage sur les lieux rencontrés dans les livres? Pourquoi s'adonner à l'art du pèlerinage littéraire qui invite à reconnaître le passé ici et maintenant? Et qui, par ailleurs, pourrait relever à un certain degré du fétichisme ou de l'idolâtrie? Peut-être pour se mettre à l'écoute de ce que les lieux disent du roman, de sa mémoire, et ressentir l'émotion ou la résonance provoquée par le romanesque des lieux. Peut-être aussi parce que les livres, même ceux que nous pensons avoir oubliés, habitent en nous. Autant de pistes que Christophe Pradel nous invite à considérer dans son essai « Sur les lieux » paru aux éditions Verdier en 2024, véritable expérience immersive dans la littérature romanesque. Bonjour Christophe Pradel.
Bonjour.
Ravi de vous accueillir à Parole d'auteur sur Radio Présence.
C'est moi qui vous remercie de cette invitation.
Je salue nos fidèles auditeurs et je leur rappelle qu'ils pourront réagir à cette émission sur notre site internet et la retrouver en podcast sur toutes les grandes plateformes numériques. Christophe Pradel, quel est votre pèlerinage littéraire préféré? Quel est le livre qui vous habite le plus, finalement?
Bah, probablement « À la recherche du temps perdu », qui est un livre que j'ai découvert autour de ma 15e année, mais en plusieurs étapes. C'est-à-dire que j'ai d'abord fait une première incursion de quelques centaines de pages, un peu découragé par la difficulté et la densité du livre, puis je l'ai repris une deuxième fois, une troisième fois, jusqu'à lire la totalité de ce roman autour de ma 18e année, je crois, 18e ou 19e. Et en fait, c'est un livre que je n'ai jamais, dans un premier temps, envisagé selon la perspective qui est la mienne dans ce livre sur les lieux, parce que je savais qu'il existait un pèlerinage littéraire associé à l'œuvre de Proust, puisqu'on peut visiter près de Chartres, dans la ville qui s'appelle aujourd'hui Illiers-Combray, ce qui est un nom sur lequel on sera sans doute amené à s'arrêter.
Tout à fait.
Une maison dite de Tante Léonie, qui est associée à la mémoire de Proust. Mais je n'ai jamais eu en fait, le désir d'aller voir cette maison. Je m'en méfiais même un petit peu, sans doute, parce que Proust dénonce dans son œuvre la dimension idolâtre du désir d'aller sur les lieux de la fiction. Et en fait, c'est un voyage que j'ai fait tardivement, il y a une dizaine d'années de cela, lorsque un éditeur, en l'occurrence une éditrice des éditions Belin, qui inaugurait une collection consacrée aux maisons d'écrivains, m'a contacté pour me demander si cela m'intéresserait d'écrire un livre sur la maison de Tante Léonie. J'ai d'abord eu la tentation de refuser, et puis je me suis laissé convaincre d'aller voir, en tout cas, ce qu'il en était sur les lieux. Et j'ai pas été entièrement séduit par le dispositif muséographique mis en place dans la maison de Tante Léonie, même si elle a sa part de ce dispositif a sa part de séduction. Disons que ça, je me suis laissé petit à petit séduire par l'ensemble du village, par la topographie des environs d'Illiers-Combray, un peu intrigué par l'espèce de correspondance qui se mettait en place entre la topographie des lieux et mes souvenirs de lecture. Et donc j'ai fini par écrire un livre, un petit livre publié chez Belin sur ce pèlerinage littéraire. Et je croyais en avoir fini avec cette question que j'ai laissée derrière moi. Et puis elle s'est à nouveau imposée à moi il y a 4-5 ans de cela, selon un autre point de vue. Et c'est le résultat, c'est ce livre qui vient de paraître.
Donc en vous posant cette question, je supputais un petit peu la réponse quant à votre choix. Alors je voudrais essayer de donner quelques petites informations à nos auditeurs à votre sujet. Vous avez fait l'école normale supérieure, vous êtes agrégé de lettres modernes, professeur de littérature à l'université Paris 13.
Et, Sorbonne Université, maintenant.
Sorbonne Université, effectivement. J'ai cru comprendre que vous étiez plutôt spécialisé dans la littérature française des 19e et 20e siècles.
C'est ça.
On peut vous qualifier, sans vous faire offense, d'être romancier, essayiste et critique littéraire. On embrase à peu près tous vos champs d'activité.
On peut dire, oui, que cela, c'est suffisamment exhaustif comme présentation.
Alors, vous avez publié un certain nombre d'ouvrages, dont un roman, qui est le roman dont on va parler aujourd'hui. Vous avez fait des travaux qui sont spécialisés sur les formes longues du roman, d'après ce que j'ai compris, tout ce qui est cycle romanesque et roman fleuve. Mm-hmm. Donc, en disant ça et en ayant lu le livre, on n'est donc pas surpris. Et vous avez fait des travaux sur la critique et la mémoire littéraire, et en particulier, je crois comprendre, sur un critique littéraire qui s'appelle Albert Thibaudet.
Oui, en fait, j'ai entrepris à deux reprises des travaux d'édition, c'est-à-dire d'édition critique. J'ai édité les essais de Proust dans l'édition dans la bibliothèque de la Pléiade avec Antoine Compagnon et Mathieu Vernet, et avec le même Antoine Compagnon quelques années plus tôt dans la collection Quarto chez Gallimard. J'ai réédité les œuvres d'un critique essentiel de l'entre-deux-guerres, hein, qui était vraiment l'une des grandes consciences critiques européennes de l'entre-deux-guerres, qui s'appelle Albert Thibaudet, qui était le principal chroniqueur de la Nouvelle Revue Française, c'est-à-dire cette revue qui est à l'origine des éditions Gallimard. Et c'est un critique que j'ai découvert lorsque je me suis engagé dans un travail de thèse sur l'idée de cycle romanesque, qui était relativement peu lu à ce moment-là. C'est quelqu'un qui a été très important jusque dans les années 60, mais qui a été un peu oublié dans les années 70-80, et qu'on est plusieurs dans ma génération, au début des années 2000 ou à la fin des années 90, à avoir redécouvert. Beaucoup de chercheurs en littérature française se sont pris de passion pour Albert Thibaudet, ce qui fait que quasiment la totalité de ses œuvres ont été rééditées dans les années 2000. Et c'est sur lui que je prends appui au début de cet essai sur les lieux pour amorcer la réflexion. Il est présent en fait essentiellement dans le premier chapitre de l'essai parce qu'il a en 1924 prononcé puis publié une conférence qu'on peut qualifier encore aujourd'hui de célèbre, en tout cas dans le monde des historiens de la littérature et des théoriciens du roman, qui s'appelle le liseur de romans, dans lequel, en fait, il propose une réflexion générale sur ce que le roman a fait à la littérature lorsqu'il est devenu le genre que je propose d'appeler cardinal, c'est-à-dire le genre principal, celui qui correspond, qui se place au centre du monde littéraire à un moment donné, parce que à un moment donné, dans le cours des années 1840-1850, le roman va devenir la forme principale de la littérature, au sens où la plupart des livres qui paraissent sont des romans, que les lecteurs commencent à lire essentiellement des romans, et que les jeunes gens qui veulent devenir écrivains, qui ont longtemps voulu être poètes, vont être de plus en plus souvent, de plus en plus fréquemment et de plus en plus exclusivement des romanciers.
Alors, on va y revenir plus en détail très, très rapidement. Auparavant, je voudrais aussi signaler que vous avez soutenu une thèse dont l'intitulé est « Le roman comme genre cardinal », qui, quelque part, était peut-être, on peut le qualifier de travail préparatoire au livre que vous venez de publier. Donc, vous aviez depuis longtemps accumulé des matériaux sur le sujet.
Oui, absolument. C'est un livre qui s'est écrit relativement vite, en quelques 6 mois, mais qui s'appuie sur une réflexion qui s'étend sur plusieurs années, ce qui est... Donc c'est un livre qui à la fois a été s'est invité de façon très brutale dans ma vie, c'est-à-dire que je lui ai consacré 6 mois intenses, mais en fait effectivement il condense et synthétise des travaux qui s'étendent sur plusieurs années.
Alors en termes de publication, vous avez publié un certain nombre d'ouvrages, des romans et un ouvrage sur Proust que vous avez évoqué tout à l'heure, qui est effectivement lui aussi un des matériaux, si ce n'est essentiel, du moins important en termes de contribution à ce livre. Je voulais aussi dire que bon, vous avez effectivement publié quelque chose sur Albert Thibaudet, comme vous venez de le dire. Alors, Christophe Prado, comment on pourrait caractériser d'une manière générale l'inspiration, votre inspiration par rapport à ce que vous avez écrit? Alors j'ai fait quelques petites recherches. Il y a des choses qui tournent autour du paysage, de la physionomie, du rayonnement des lieux, et on pourrait qualifier de la réflexion entre des liens entre mémoire et paysage. Est-ce que vous pourriez nous expliciter un petit peu ces thématiques qui vous animent?
C'est une bonne évocation d'ensemble, en fait, effectivement, de la plupart de mes travaux, et cela à cheval entre mon travail de romancier, mon travail de critique et d'essayiste. C'est-à-dire que je suis assez sensible, effectivement, à la façon dont les lieux peuvent être perçus nous donnent accès à d'autres dimensions du temps, aux stratifications du passé, mais également à ces univers multiples de l'imagination, de la fiction. Et c'est quelque chose cette dimension du lieu, comme ce qu'on pourrait appeler ces lieux de mémoire, disons, c'est quelque chose que j'ai mobilisé dans certains de mes livres, notamment dans le deuxième, dans mon deuxième roman, La Grande Sauvagerie, qui est d'une certaine façon une longue enquête d'une jeune femme, puis que l'on voit prendre de l'âge au fur et à mesure du livre, qui est fascinée par un lieu qui s'appelle précisément La Grande Sauvagerie, c'est un lieu dit, une succession de hasards, mais aussi grâce à l'obstination d'une véritable enquête historique qu'elle entreprend, et bien petit à petit, le livre se donne pour le déchiffrement de l'histoire qui était infusée dans le lieu, mais que tout le monde avait oublié. Et donc c'est un dispositif qui, cette lecture du lieu qui organise l'ensemble du roman. Donc ça pour le versant, disons, romanesque de mon activité fictionnelle. Et c'est cette même inclusion du temps à l'intérieur des lieux que j'essaie d'explorer selon d'autres modalités, dans cette enquête historique pour laquelle se donne cet essai sur les lieux, qui de fait est une traversée de plus de 2 siècles de notre histoire, puisque c'est une enquête qui commence à la fin du XVIIIe siècle et qui nous amène jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au présent, essaie de se saisir d'un phénomène qui est assez massif, c'est-à-dire que de très nombreuses personnes ont, au cours de leur vie de touristes, parce que nous sommes tous à quelques degrés des touristes, ça fait partie de notre mode de vie, que de se déplacer pour le loisir, eh bien nous avons été amenés à être mus par ce désir un peu étrange qui consiste à aller voir des lieux qui sont associés à des existences avec lesquelles nous avons noué une relation affective. Que ces existences, le plus souvent, sont des existences qui sont historiquement attestées, Donc c'est une liaison biographique entre un lieu et puis l'un des individus qui a inscrit sa vie à l'intérieur de ce lieu. Quand on va par exemple visiter le château de Montaigne, c'est un lien biographique. Mais il y a des pèlerinages un peu plus étranges. C'est lorsque l'on éprouve le désir d'aller sur un lieu qui est associé à une existence avec laquelle nous avons noué un lien affectif, mais nous savons que cette existence est une existence fictive. On peut visiter en Espagne la maison de Dulciné, qui est un personnage de Cervantes, dont nous savons pertinemment que c'est un personnage de fiction. Il n'en demeure pas moins que chaque année, il y a des milliers de personnes qui vont dans cette maison et qui sont émues en pénétrant à l'intérieur de cette maison. Alors c'est un désir et une émotion qui souvent a été prise un peu en mauvaise part, ou en tout cas on l'a considéré avec un peu de condescendance, et on comprend pourquoi, parce qu'elle a une dimension un peu absurde. On a pu y voir par exemple comme un dévoiement du sentiment religieux. Il m'a semblé qu'il était bon de considérer de façon un peu plus sérieuse cette émotion pour voir quels en étaient les enjeux.
Alors cette émotion... Cette expérimentation du pèlerinage littéraire, vous l'avez expérimentée par vous-même et effectivement vous apportez un certain nombre d'informations qui laissent à penser que vous n'êtes pas le seul. Parmi les éléments à prendre en compte dans le fait que vous n'êtes pas le seul, c'est qu'on peut observer un petit peu la même chose dans l'appétence des gens à se rendre sur les lieux de tournage de films, par exemple.
Oui, alors effectivement, le cinéma, à partir des années 1970-80, donc relativement tardivement dans l'histoire du 7e art, a donné lieu à des phénomènes qui relèvent de la forme du pèlerinage. Certains films qu'on qualifie parfois de films cultes, c'est le vocabulaire religieux est toujours présent dans ce type de phénomène, et je prends appui sur le vocabulaire que j'ai rencontré dans les récits que j'ai étudiés. Donc c'est les auteurs que j'ai étudiés qui utilisent ces termes de pèlerinage, de station, etc. Et donc des films comme Vertigo d'Hitchcock ou... Le Parrain de Coppola ont donné lieu à des attitudes qu'on pourrait qualifier donc de dévotionnelles avec des guillemets, hein, qui consistent à essayer de retrouver les différents lieux du tournage, les lieux que l'on a vus à l'écran et qu'on éprouve une émotion de s'y retrouver à son tour. C'est d'abord une attitude qui a été une attitude purement privée, c'est-à-dire c'est des spectateurs qui ont fait la démarche eux-mêmes de retrouver les lieux en s'appuyant sur la documentation qu'ils auraient pu accumuler. Et puis petit à petit, ce sont des pèlerinages qui se sont organisés et qui ont parfois été pris en charge par les municipalités dans une logique d'exploitation touristique. On organise des tours. Et c'est vrai que le cinéma a pu donner lieu à ce type de pèlerinage, comme la littérature avant lui avait pu le faire.
Voilà, donc il y a une similarité de comportement par rapport au cinéma et à la littérature. Christophe Prado, je vous propose une petite pause musicale accompagnée de Wagner. Thank you.
parole d'auteur. Philippe Gilbert.
Nous sommes toujours en compagnie de Christophe Prado pour son ouvrage « Sur les lieux » paru en 2024 aux éditions Verdier. Et nous venons d'écouter et d'apprécier un extrait de « La Valkyrie de Wagner » qui a été choisi par Christophe Prado et qui va nous expliquer de suite pour quelles raisons.
Alors cet extrait me touche toujours tout particulièrement parce que c'est un extrait de « La Valkyrie » chanté par Gwyneth Jones dans la célèbre mise en scène du ring de Patrice Chéreau à Bayreuth pour le centenaire du ring et de Bayreuth, sous la direction de Pierre Boulez. C'est un moment qui m'a toujours beaucoup touché, mais qui est associé pour moi vraiment à la mise en scène. C'est-à-dire que je me représente la chanteuse, qui est une magnifique actrice et qui est dirigée magnifiquement par Patrice Chéreau. Et donc c'est vraiment un moment là où le chant est extrêmement émouvant. C'est l'adieu de Brunhilde à son père, Wotan, et qui ramène avec lui à chaque fois que je l'entends toute cette mise en scène. Or, c'est un des enjeux du livre, que cette réflexion sur l'incarnation, hein, sur la façon dont un texte trouve à s'incarner dans un corps, dans une voix, et notamment dans le chapitre que j'ai consacré, en tout cas pour partie, à un phénomène qui est très important à la Belle Époque, c'est celui du pèlerinage wagnérien à Bayreuth. C'est-à-dire qu'il y a eu de très nombreux récits de voyages à Bayreuth qui utilisent constamment ce vocabulaire du pèlerinage, l'opéra de Bayreuth est présenté comme construit sur une montagne sacrée. Enfin, il y a vraiment un vocabulaire religieux qui est omniprésent. Et ce pèlerinage à Bayreuth a donné lieu non seulement à des récits, mais aussi à des mises en fiction. C'est-à-dire qu'il a été utilisé dans de très nombreux livres qui rendent compte de ce phénomène tout à fait massif de la dévotion wagnérienne. Je me suis arrêté assez longuement dans un chapitre de mon livre sur un ouvrage qui est assez étonnant, qui est très peu lu aujourd'hui, hein, qui est un peu sorti de la mémoire collective, mais qui est un livre important du début du XXe siècle, qui s'appelle « Terrain à vendre au bord de la mer », c'est un titre un peu étrange, qui est le deuxième et dernier roman d'une personnalité aujourd'hui largement oubliée, qui s'appelle Henri Séard, qui est un naturaliste, un proche de Zola. C'était quelqu'un qui était un érudit qui travaillait à la bibliothèque du musée Carnavalet et qui fournissait en notes Zola. C'est-à-dire que il a beaucoup aidé Zola dans son travail de documentation et il a construit un roman très étonnant d'un millier de pages. C'est un roman Monde qui décrit la tentative de création d'une station balnéaire. Donc c'est une réflexion aussi sur la façon dont le tourisme contribue à réaménager l'espace national. Donc il y a de très nombreux personnages, évidemment, dans un roman de cette dimension. Vous vous doutez bien qu'on a besoin de l'animer avec une foule de personnages, mais le personnage principal, en tout cas celui qui se rapproche le plus de cette fonction de personnage principal, c'est un chroniqueur, un journaliste, un chroniqueur musical qui, par une sorte de plaisanterie, alors qu'il écrit une chronique dans ce village de pêcheurs bretons qui aspire à devenir une station balnéaire, il invente de dire que ce village de pêcheurs, eh bien, c'est là que Wagner s'était installé pendant quelques mois, pendant qu'il était en train de travailler à Tristan et Isolde, et qu'en fait, le château de Tristan, eh bien, c'est ici. Cet article qu'il publie donc, dans le journal dont il est le chroniqueur suscite le début d'un pèlerinage wagnérien. Et donc, c'est un roman qui réfléchit de façon assez satirique. Hein, c'est un livre qui est très ironique sur ce désir un peu étrange hein, d'aller sur les lieux de la fiction, mais qui prend une forme de profondeur méditative avec le personnage d'une chanteuse qui rêve d'incarner Isolde sur une scène à une époque où on n'a pas encore créé en France Tristan et Isolde. C'est un opéra qui a été très long à être mis en scène en France, et il y a toute une réflexion très belle sur sur l'incarnation théâtrale, hein, sur le désir d'incarner un personnage de papier que l'on ne connaît que par une partition, et comment est-ce qu'on peut lui donner vie sur scène.
Voilà, donc ce chapitre est une illustration de la thèse que vous développez. Alors, si vous le permettez, je voudrais que nous revenions un instant sur Thibaudet, que vous évoquiez tout à l'heure en début d'entretien. Il se trouve que Thibaudet met en avant ce qu'il appelle également une sorte de reconfiguration de l'idée de la littérature, avec l'apparition, l'avènement du liseur de romans, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, jusqu'à ce moment-là, puisque c'était la poésie qui régnait en maîtresse sur la littérature. Alors, qu'est-ce qui s'est passé et comment s'est opéré ce tournant ?
Alors c'est un phénomène évidemment très complexe, mais que Thibaudet aborde du côté, et c'est ça qui fait l'originalité de sa démarche, du côté du lecteur. C'est-à-dire qu'il n'essaie pas d'en rendre compte en prenant appui sur les écrivains, sur les créateurs, mais c'est du côté de la réception qu'il se situe. Et ce qu'il fait apparaître, c'est que lorsque le roman devient la lecture principale des lecteurs, eh bien cela va modifier la mémoire des lecteurs et en fait la mémoire culturelle elle-même. Pour une raison à la fois très simple et très complexe à décrire, c'est que une littérature qui est en régime poétique, c'est-à-dire où la poésie est la pratique à la fois la plus fréquente, la plus privilégiée, la plus prestigieuse, c'est une littérature dans laquelle la mémoire textuelle est privilégiée. On se souvient qu'à l'école, on était invité à apprendre par cœur des poésies parce qu'un poème demande à être appris par cœur, à être retenu textuellement dans la mémoire. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'on le fait effectivement, mais le poème appelle ce souvenir textuel, et donc un souvenir relativement précis, même si évidemment, si on vous demandait actuellement là, de réciter l'un des poèmes que vous avez appris pendant vos années d'école, peut-être vous auriez du mal à nous le restituer intégralement, mais vous seriez sans doute capable de nous redonner quelques vers. Et donc, quand on vit dans un monde culturel qui est en régime poétique, la mémoire textuelle est extrêmement développée. Ce qui est encore le cas, par exemple, pour des acteurs. Quand on parle à des acteurs, ils ont en eux des centaines, des milliers de vers, ou pas forcément des vers, ça peut être également des phrases de prose, mais ils ont une mémoire qui est beaucoup plus développée que le commun des lecteurs, parce que professionnellement, ils sont amenés à développer cette part de mémorielle en eux, alors que la mémoire de romanesque est beaucoup plus vague, instable, elle est extrêmement peu textuelle. Même des romans, les romans qui vous ont le plus touché, il est extrêmement difficile d'en citer de mémoire des phrases entières. Évidemment, il y en a quelques-unes qui peuvent revenir à la mémoire, mais vraiment, c'est très rare. On se souvient surtout, en premier lieu, de situations, et puis de la relation affective qu'on a liée avec un personnage, avec des personnages. Et parfois, des romans qui ont été très, très importants, dont on pourra même dire qu'ils font partie de mes romans préférés, eh bien, on s'aperçoit lorsqu'on est sommé d'en dire quelques mots, par exemple pour un ami à qui on le recommande et qui nous dit « mais qu'est-ce que ça raconte ?» Eh bien, en fait, on va être amené à proposer un résumé très pauvre. Parce que la mémoire romanesque est une mémoire fragile.
Alors vous allez même jusqu'à dire que le lecteur de romans est oublieux, mm-hmm. et vous poursuivez ce raisonnement en disant que la littérature, via le roman, se recentre sur le présent et le passé proche, mais que de toute façon, dans ces conditions, le destin de tout livre est de se transformer en fragments. Vous évoquez une notion là qui a retenu mon attention, qui est l'éripiologie, c'est-à-dire que on lit, on ne se souvient plus, et les souvenirs de lecture sont destinés à s'effriter, à s'évaporer.
Oui, alors, effectivement, le roman, le souvenir qu'on en a, c'est un souvenir fragmentaire. On se souvient d'épisodes, de saillons, qui ne sont pas forcément les mêmes d'un lecteur à l'autre, d'ailleurs, pour le même livre. Ça ne veut pas dire, néanmoins, que le livre n'habite pas en nous. C'est-à-dire que c'est une présence fragmentaire, fragile, mais en même temps très forte, au sens où elle peut avoir un pouvoir affectif tout à fait considérable. Et en fait, cette fragilité, les romanciers en ont fait une force, d'une certaine manière, parce qu'elle est analogue à la fragilité de nos propres souvenirs. C'est-à-dire que nos souvenirs d'enfance, par exemple, ils sont souvent bien vagues, bien fragiles, et en même temps, ils sont très forts. Ils nous habitent puissamment. Alors, vous évoquiez l'éripiologie, c'est une proposition qui est à la fois sérieuse et un peu humoristique d'Olivier Rollin, l'écrivain Olivier Rollin, qui réfléchissant justement à cette présence paradoxale des romans en nous, proposer de créer une science qui serait le symétrique de la génétique. La génétique, c'est la science littéraire qui est consacrée, enfin, en tout cas la discipline littéraire qui est consacrée à l'étude de l'élaboration des œuvres. Donc on est du côté de la création. Et l'éripiologie, ça serait l'étude de la façon dont les souvenirs demeurent en nous. C'est-à-dire une étude des souvenirs de lecture et de leur fragilité. Alors, il y a eu bien des propositions qui ont été faites dans cette direction. Par exemple, Julien Gracq, dont en lisant, en écrivant, invitait des dispositifs pour essayer de voir si on pouvait distinguer entre différentes modalités de souvenir d'un roman à l'autre. Est-ce qu'il pense, par exemple, qu'on se souvient, il y a des catégories de romans qui laissent un certain type de souvenir? Par exemple, il est beaucoup plus facile de se souvenir de la trajectoire d'ensemble d'une destinée comme celle de Madame Bovary que de la trajectoire d'ensemble de Frédéric Moreau. Parce que, en fait, il y a une sorte d'arc dans Madame Bovary qui est beaucoup plus lisible et mémorable que l'enchevêtrement d'aventures qui ne font que s'effondrer sur elles-mêmes de l'éducation sentimentale. On ne se souvient pas de la même façon du Rouge et le Noir et de la Chartreuse de Parme, par exemple.
Alors, je ne sais pas si les auditeurs se souviennent ni ne connaissent la chanson que nous allons écouter, qui s'intitule « Trois beaux oiseaux du paradis », dont on vous donnera le nom de l'auteur après sa diffusion. Thank you.
Parole d'auteur. Philippe Gilbert.
Nous poursuivons notre voyage dans la littérature romanesque avec Christophe Prado, qui nous présente aujourd'hui son ouvrage sur les lieux, paru en 2024 aux éditions Verdier. Christophe Prado, cette chanson s'intitule « Trois beaux oiseaux du paradis ». Quel en est l'auteur des paroles et de la musique ?
Il s'agit de Maurice Ravel. C'est certes loin d'être son œuvre la plus célèbre, mais c'est une œuvre que je trouve absolument bouleversante pour ma part, que j'ai découverte, alors même que j'aime depuis longtemps Ravel, mais je l'ai découverte un peu par hasard, parce qu'elle est utilisée par Maurice Pialat comme générique d'une série télévisée qu'il a réalisée au début de sa carrière de cinéaste, hein, qui s'appelle La Maison des Bois et qui est un film, enfin une série télévisée, je crois 6 ou 7 épisodes, sur la vie à l'arrière pendant la Première Guerre mondiale. Et c'est un très beau film. Et de fait, le choix de Maurice Pialat résonne tout à fait puissamment, parce que c'est une œuvre, les Trois Oiseaux du Paradis, qui d'ailleurs s'inscrit dans un ensemble de chansons, c'est un ensemble de 3 chansons, que Ravel a composé pendant la Première Guerre mondiale. Et les Beaux Oiseaux du Paradis, c'est une évocation de l'attente des familles qui craignent de recevoir la lettre leur indiquant la mort d'un proche. C'est dit de façon très indirecte, hein. On peut ne pas percevoir ce contexte historique en entendant la chanson, mais c'est d'autant plus poignant en raison même de ce caractère allusif. Et en lui donnant une forme de conte, Ravel rend, je trouve, d'autant plus poignante la situation. C'est une chanson que j'avais envie de faire entendre à vos auditeurs, parce qu'elle est, elle a habité mon esprit à plusieurs reprises quand j'écrivais sur les lieux, parce que sur les lieux, je l'ai dit tout à l'heure, est un ouvrage qui traverse 2 siècles et demi, mais qui néanmoins trouve un ancrage historique privilégié dans les années 1900, donc dans cette époque qu'on appelle parfois encore aujourd'hui la belle époque, qui donc s'achève avec la Première Guerre mondiale. Et de nombreuses œuvres que je commente se situent précisément dans ces années-là et sont marquées par la guerre. C'est le cas notamment du chapitre que je consacre à l'œuvre de Proust. On peut dire peut-être un mot d'ailleurs de la composition. C'est un livre composé de 8 chapitres. Dans chacun de ces chapitres, a pour titre le nom d'un lieu. Un lieu parfois célèbre, parfois pas du tout. Il y a une illustration qui représente ce lieu, ou qui entre dans une relation d'illustration indirecte par rapport à ce lieu. Puis il y a des noms d'écrivains. Ces noms d'écrivains signalent un parcours. On ne voit pas toujours très bien comment on peut passer de l'un à l'autre. Est-ce que je ménage des éléments de surprise, mais en tout cas chaque chapitre comme ça est constitué de visites à des lieux et à des écrivains, avec des couloirs de communication. Mais il y a un chapitre qui fait exception, c'est le chapitre 7, qui est consacré à Proust, qui lui est entièrement consacré à un seul écrivain. Je lui ai donné pour titre un titre un peu déconcertant, peut-être pour les lecteurs de Proust, parce qu'on ne l'associe pas à Proust, c'est la Côte 307. Parce que j'essaie de me saisir dans ce chapitre d'un phénomène tout à fait étrange, c'est que Proust a essayé de détruire la ville de Combray. La ville de Combray, dans La Recherche du Temps Perdu, c'est la ville de l'enfance, c'est la ville qui est des souvenirs d'enfance du héros, et quand on aime Proust et quand on lit du côté de chez Swann, on finit par faire sien ces souvenirs d'enfance du héros, on finit par les mêler à ses propres souvenirs d'enfance. Or, le lecteur courageux qui aura traversé toute la recherche du temps perdu, courageux mais aussi émerveillé par ces milliers de pages tellement belles, qui arrive dans le temps retrouvé, peut être traumatisé de découvrir que la ville de Combray est détruite. Elle est détruite parce qu'elle est située par Proust dans la zone des combats entre Laon et Chartres. Lapsus dont je vais expliquer la raison dans un instant, entre Laon et Reims, ce qui fait que la ville qui a été évoquée de façon si belle dans le premier tome, eh bien, on ne peut pas la retrouver dans le territoire national, elle a disparu. C'est devenu la côte 307 dans les comptes rendus des combats. Donc c'est quelque chose qui pourrait être un traumatisme de lecture, mais en fait un phénomène très étrange s'est produit, c'est que même les lecteurs les plus assidus de Proust ont tendance à oublier que Combray est situé entre Laon et Reims, et a oublié que la ville est donnée pour détruite dans le temps retrouvé. Pourquoi ? Parce que a prévalu l'association biographique de la ville de Combray à la ville de l'enfance de l'écrivain Proust, c'est-à-dire la ville d'Illiers, qui est, elle, à côté de Chartres. Il faut préciser que lorsque Proust publie Du côté de chez Swann pour la première fois en 1913, il situe de fait effectivement Combray près de Chartres. Il a besoin que la ville soit près d'une ville cathédrale. Et donc il choisit Chartres, qui est la ville de son enfance. Et après la guerre, en 1918, lorsqu'il est question de rééditer Du côté de chez Swann, cette fois-ci chez Gallimard, parce que la première édition est chez Grasset, et en 19, la deuxième est chez Gallimard, Proust choisit de déplacer Combray de la Beauce en Champagne. Parce qu'il veut intégrer la guerre dans son récit. Et donc, il modifie son texte très peu, il change quelques noms. Mais dans la deuxième édition, il barre Chartres et il remplace Chartres par Reims et par Laon, qui sont deux villes martyrs du conflit, pour que la guerre soit présente. Mais les lecteurs n'en tiennent pas compte. C'est-à-dire que de très nombreux lecteurs, qui sont vraiment des lecteurs assidus de Proust, ignorent complètement que Combray devrait être, est situé par Proust textuellement, en Champagne, et la plupart des lecteurs, quand on entend parler de Proust dans les médias, généralement, bien on évoque Combray comme une ville de la Beauce.
C'est une très forte illustration de l'appropriation par les lecteurs.
Absolument.
D'un roman. Et c'est aussi une illustration que c'est l'imaginaire et la volonté très profonde des lecteurs qui les dirige, qui les aiguille finalement.
C'est ça. Et l'illustration, peut-être emblématique de ce phénomène, c'est que la ville d'Illiers, qui est donc la ville de la famille paternelle de Proust, hein, et bien depuis 1971, s'appelle Illiers, trait d'union, Combray. C'est un cas unique dans l'histoire de la toponymie française et même d'ailleurs européenne. À vrai dire, en fait, il semblerait qu'il n'y ait pas d'autres exemples en Europe de ce coup de force. Et bien, depuis 1971, on a changé le nom historique de la ville d'Illiers. On lui a accolé son nom de fiction. Mais qui est même pas fort, mais c'est un nom de fiction qui est très fragile, puisque, en fait, si on lit effectivement ce qu'il y a écrit dans le texte publié, en fait, Illiers n'est pas Combray. Alors, ça l'a été à un moment, on comprend bien qu'il y a une forme de légitimité quand même dans ce geste, mais ça a été officialisé par une décision du Conseil d'État, paraffée par le président de la République. Et aujourd'hui, quand on va à Illiers, eh bien, on va à Illiers-Combray. Et les lecteurs de Proust ont créé une maison, musée, qui est d'ailleurs vraiment, j'en ai parlé tout à l'heure, qui est un beau lieu, qui est tout à fait passionnant à visiter, qu'on n'appelle pas la maison Marcel Proust, mais la maison de la tante Léonie, c'est-à-dire que c'est la maison du personnage qui nous accueille dans Du côté de chez Swann.
Donc la force du roman. Alors le roman devient genre cardinal. Vous nous expliquez tout cela en détail dans votre ouvrage. En conséquence de quoi, il y a un certain nombre de notions qui apparaissent, qui sont très fortes. C'est la notion de genre romanesque. Et cette notion de genre romanesque, elle est explicitée par ce qu'on pourrait appeler le romanesque des lieux versus les lieux romanesques. C'est qu'est-ce qui fait qu'un lieu est romanesque ou le devient ?
Alors, pour qu'un lieu devienne romanesque, il faut qu'il suscite des souvenirs de lecture, c'est-à-dire qu'il y ait que des souvenirs de lecture y soient logés. Alors, ça peut être un lieu qui est muséifié, mais ça peut être également un lieu que rien ne signale dans l'espace public pour sa qualité romanesque, et donc un lieu qui est perçu comme tel que par quelques lecteurs, ou même par moi seul. Mais il faut un lieu romanesque, c'est un lieu qui, voilà, dans lequel des souvenirs de lecture romanesque sont logés. Je vais donner un exemple peut-être qui est deux trois exemples enchaînés rapidement. Un écrivain contemporain s'appelle Didier Blonde a écrit un livre qui s'appelle Carnet d'adresses de quelques personnages fictifs de la littérature française. Et en fait il a extrait de ses lectures toutes les adresses de personnages de fiction qu'il a pu collecter, et il raconte que le point de départ de cette fascination pour les adresses des personnages de romans, c'est que lorsqu'il était enfant et qu'il lisait Arsène Lupin, il a eu la surprise extrême en lisant, je crois, Le Bouchon de Cristal, de découvrir que l'une des maisons d'Arsène Lupin était la maison voisine de la sienne. Et ça a créé en fait une sorte de vertige de découvrir que d'une certaine façon il habitait dans le monde de la fiction, parce que l'une des caractéristiques du romanesque qui se met en place à partir du début du 19e siècle, c'est que les romanciers de plus en plus, en premier lieu évidemment les romanciers réalistes, ont eu tendance à loger leurs histoires dans les lieux mêmes qu'habitent les lecteurs, en tout cas les premiers lecteurs, ceux qui sont leur premier public, les lecteurs qui partagent le même espace national. Et ça a créé ce phénomène de superposition entre le lieu que j'habite et le lieu où habitent les personnages dont je suis en train de lire
Alors, je voudrais revenir un instant, lorsque vous dites c'est quelque chose que je ressens, vous explicitez bien dans votre livre que cette notion de résonance, c'est-à-dire face à un lieu, de quelle manière il peut résonner vis-à-vis de moi, de mon ressenti, en citant Fry, et vous faites aussi allusion à l'émotion diffuse, qui est une expression de Malraux, que l'on peut résumer en disant que c'est l'émotion que j'éprouve à être ici. Donc c'est un petit peu ces deux caractéristiques que, malheureusement, nous allons pas pouvoir approfondir, qui essaye de faire un petit peu le portrait de ces lieux romanesques, enfin de la définition de ces lieux romanesques. Vous assistez aussi de manière globale en disant que ces lieux, c'est des lieux que l'on regarde depuis la quatrième dimension. Donc c'est quelque chose qui, c'est la dimension du temps finalement et du ressenti qui perdure et qui est entretenu.
C'est ça. Donc, la quatrième dimension, c'est une sorte de métaphore qui vient, qui est une transposition dans le domaine de l'art et de la littérature, des spéculations de physiciens comme Einstein. Mais c'est l'idée en fait qu'il y a certains lieux qui sont dotés d'une quatrième dimension, cette quatrième dimension étant celle du temps. Je cite ici un passage très célèbre de La Recherche du Temps Perdu, c'est la description de l'église de Combray, qui se sépare et qui se distingue des autres bâtiment du village, parce qu'on a le sentiment que c'est un lieu dans lequel le temps s'est déposé, qui est doté donc d'une dimension supplémentaire qui est liée à son ancienneté et à tous les souvenirs qui se sont déposés en elle. Mais beaucoup de romanciers ont essayé de manifester cette quatrième dimension qui n'est pas forcément l'apanage et le privilège des monuments historiques. Les monuments historiques, évidemment, sont par excellence des bâtiments dans lesquels la quatrième dimension est perceptible, mais potentiellement tout lieu peut être doté d'une quatrième dimension du moment que des souvenirs deviennent perceptibles. Et moi, il y a une scène que je trouve particulièrement admirable, qui est une de mes scènes préférées dans la littérature romanesque. C'est un passage du roman de Thomas Hardy qui s'appelle Tess de Burville, un roman bien célèbre, un des grands classiques de la littérature anglaise, dans lequel le Angel, qui est le mari de Tess et qui a perdu de vue sa femme, enfin qui essaie de la retrouver, se rend dans le village natal de Tess. Il va sonner à la porte de la maison familiale de Tess et il découvre que la famille de Tess n'habite plus là, que ce sont une autre famille qui s'y est installée. Et il y a une scène absolument sidérante où Angel regarde cette famille inconnue qui va qu'à ses occupations dans le jardin, et en même temps qu'il voit cette famille inconnue, il voit se superposant à elle, mais de façon fantomatique, la famille de Tess. Et donc c'est une expérience dont beaucoup de gens ont pu faire lorsque l'on revient sur des lieux qui ont été des lieux familiaux et qu'on découvre que voilà, ceux qui on habite désormais dans des lieux qui nous ont été chers, et tout d'un coup la stratification en fait des existences qui se succèdent dans un même lieu devient apparente.
D'accord. Et nous allons conclure cette émission sur cette notion de quatrième dimension, et je voudrais citer une phrase de Jean-Christophe Bailly que vous citez au début de votre livre.
Absolument.
Et qui est peut-être une bonne conclusion par rapport à cette notion de souvenir habité par les lieux, disant que les souvenirs sont en nous ce qui empêche le monde de finir.
Oui, c'est une très belle phrase.
Christophe Prado, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Merci de nous avoir fait voyager dans la littérature romanesque. Merci aux auditeurs pour leur fidélité. N'hésitez pas à partir en pèlerinage littéraire. Merci à Christophe Aubry à la technique. Je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission et qu'elle est disponible sur toutes les plateformes numériques en podcast. Bonne lecture à tous, à très bientôt.